sujet sur des problèmes relatifs à la traduction des logiciels lors de la recherche de vulnérabilité avec des outils dédiés à cette tâche. Donc c'est un sujet qui est particulièrement intéressant dans les environnements non anglophones. Donc là, vu qu'il y a une majorité, je pense, de francophones, c'est vraiment un aspect qui peut intéresser les gens qui font de la recherche de vulnérabilité, qui font faire par les prestataires, la recherche de vulnérabilité sur des environnements non anglophones. Bon, le plan sera rapide, introduction, explication des termes recherche de vulnérabilité, localisation en fin négatif, le modus operandi des tests effectués, les résultats, leur interprétation et une conclusion. Donc cette présentation est basée sur un papier que j'ai publié en avril 2003. Donc le but c'est vraiment de montrer des limites très précises, mais malgré tout importantes sur la recherche de vulnérabilité. Donc ça évoque ce qui me semble être une nouvelle famille de faux négatifs pour les scanners de vulnérabilité. C'est axé très clairement sur une optique thèse d'intrusion. Donc là on parle de recherche de vulnérabilité, pas d'exploitation. On verra la différence justement sur l'exemple. Et ça concerne donc principalement, comme je l'ai dit, des environnements anglophones. Donc explication de terme, un scanner de vulnérabilité. Bon, tout le monde je pense voit ce que c'est. Il y a des produits commerciaux comme ISS, des outils libres comme Nessus et des outils plus spécifiques qui peuvent être dédiés à la recherche d'une ou d'une vulnérabilité spécifique ou des vulnérabilités liées à un produit spécifique. Donc les utilisateurs, c'est généralement soit des auditeurs, des testeurs, soit des administrateurs réseau. Et malheureusement, on remarque que les résultats de ces logiciels sont souvent considérés comme fiables, soit par manque de temps, soit par manque de compétences. Et on remarque même parfois dans des comptes rendus d'audit, des copier-coller de rapports de scanner de vulnérabilité, ça permet de juger rapidement la qualité du travail. Donc la localisation, c'est le fait de traduire les messages qui apparaissent, enfin les chaînes de caractères, pas forcément qui apparaissent à l'utilisateur. Donc le plus visible, c'est les menus, les bannières éventuellement, et en l'occurrence, là, ce sera les messages d'erreur retournés pour des communications qui ne sont pas censées voir normalement des humains dans le processus normal de fonctionnement. Donc ça existe principalement dans des environnements commerciaux, donc SQL Server et système d'exploitation Windows. Donc l'exemple va porter sur SQL Server, on verra précisément pourquoi. Et à mon avis, ce type de traduction des messages, enfin des chaînes de caractères au sens large, ne peut que se généraliser pour développer un côté user-friendly et permettre aux personnes non anglophones d'avoir une meilleure, un meilleur feeling avec les applicatifs mis en place. On verra que ça peut être finalement gênant avec les écoles actuelles. Donc le faux négatif, c'est tout simplement la non-détection, enfin, dans ce cadre précis, la non-détection d'une vulnérabilité effectivement présente. Donc un faux négatif, c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus difficile à détecter qu'un faux positif dans un rapport d'outil de recherche d'une vulnérabilité. Ça peut arriver soit à un faux sens de vulnérabilité, vous avez passé l'outil, tout se passe bien, vous avez que des indicateurs au vert, donc ça peut donner un faux sens de sécurité. Et ça peut surtout mettre une insécurité si l'exploit qui exploite, la faille qu'on vient de tester, lui n'a pas cette limitation et va effectivement compromettre même des versions localisées. Ce qui est le cas dans l'exemple que je vais vous montrer juste après. Puis le classique, celui qui sait qu'il ne sait pas, c'est plus que celui qui ne sait pas, qui ne sait rien. Donc c'est le problème du faux négatif. Donc la démonstration du problème, donc, ça a été trouvé par hasard. Pendant la thèse d'intrusion, en faisant du recoupement entre l'architecture du client et les résultats de l'outil, ça me semblait étonnant de ne pas avoir de serveur SQL vulnérable. Après investigation manuelle, c'était un bug du logiciel. Donc après, j'ai investigué plus largement et ça a mené à cette analyse. Donc le problème testé, c'est SQL Server et les mots de passe nuls. Donc pour compter ça, un grand classique de la compromission. Donc SQL Server, l'avantage, c'est qu'il est localisé donc au niveau utilisateur et au niveau même des messages qui n'apparaissent que lors des communications entre le client et le serveur et donc invisible à un humain normalement. C'est fortement déployé, autant faire ça sur quelque chose qui est utile et si possible aussi large que possible. Et donc présence de nombreuses failles connues, en l'occurrence, donc là je donne l'identifiant CVE du problème de blank password, qui est une fonctionnalité par défaut des SQL Server. Ça a changé, mais c'était encore le cas il y a quelques temps. Donc, pour bien être précis, le problème démontré avec EBL n'est pas le seul problème de localisation. J'avais déjà remonté à HD Moore un problème sur un script qui testait la faille Unicode DIS, où il recherchait une chaîne directory off pour valider effectivement que la faille avait marché. Donc forcément, ça ne marchait pas sur des versions localisées. Donc il y a d'autres techniques, ou avoir une table de hash des chaînes à rechercher, ce qui est un peu léger comme technique, soit utiliser les codes d'erreur ou des moyens plus efficaces. Il me semble qu'une des personnes de Cartel avait fait un outil qui se basait sur les codes d'erreur retournés par serveur web et qui avait donc pas du tout ce type de problème. Autre exemple, les comptes utilisateurs, super utilisateurs sous Windows. Donc en anglais c'est administrateur, en français c'est administrateur. Si vous avez un outil qui fait du brute force sur votre compte administrateur et qui recherche un compte administrateur, vous n'êtes pas prêt d'arriver à trouver le mot de passe. Donc toujours pareil, c'est vraiment des problèmes de traduction, soit des comptes utilisateurs, soit des messages d'erreur, etc. etc. Donc le module souterrain GIR, c'est assez simple, on fait une install par défaut de Windows 2000 SP3, dessus on installe SQL2K, enfin la, donc MSSQL 8, on force le mot de passe SA à une chaîne nulle, donc on a installé 4 langages, enfin 4 langues, français, anglais, allemand et japonais, on teste chacun des outils du panel sur la version anglaise, si jamais il trouve la faille, on valide le produit pour faire les tests sur les autres versions. C'est pas le process le plus rigoureux, mais ça nous permet de valider que l'outil trouve au moins la faille sur la version anglaise et après éventuellement sur les versions localisées. Donc le panel utilisé pour l'analyse, donc on a pris des outils commerciaux plus ou moins leaders, enfin sur l'aspect commercial bien sûr. Donc ISF Data Scanner qui est donc spécifique aux bases de données. Vigilant Secure NX, EA Retina Network Scanner. On a pris Nessus, c'est à l'origine avec Nessus que le bug avait été trouvé. Et aussi des outils spécifiques, donc Splida Scanner édité par EA, qui a la seule fonctionnalité c'est de trouver ce type de vulnérabilité. Et SensePost, SensQL, qui a lui aussi comme seul but de trouver les comptes ayant des mots de passe nuls sur SQL Server. Donc d'autres outils qui n'ont pas été testés ou qui n'étaient pas testables. Donc ISS Security Scanner ne fait pas de test. Symantec, Netrecon, NetIQ ne font pas de test. Et GFI Landguard, résultat irreproductible. Donc on a préféré ne pas l'intégrer au panel. Si quelqu'un sait comment marche cet outil, ça m'intéresse. Donc les résultats, bon, c'est simple, une matrice, les outils, les résultats. Sur la version US, tout se passe bien, chacun fait bien son travail. Sur les autres versions, c'est assez gênant. Il n'y a que l'ISS Database Scanner qui trouve bien la vulnérabilité, donc ça nous fait environ 20% de négatif. Donc il faut considérer que dans le monde, même si une grande partie des installs sont dans des environnements anglophones, ça peut être une réponse aux problèmes de sécurité en Asie. Si les versions sont localisées, on peut retrouver des problèmes liés à ce type de recherche. Donc une remarque marrante, les anciennes versions de Retina détectaient effectivement les versions localisées. Au moment des tests, la version la plus récente ne les détectait pas. Dommage. Autre détail, SQLPOC, dont le code a été utilisé pour créer le ver SPIDA, qui utilisait cette faille, compromet effectivement n'importe quelle version, car le test est fait au niveau applicatif. C'est pas une bête histoire de pattern matching, c'est vraiment l'utilisation de l'API classique, et donc là, évidemment, on n'a pas de problème de localisation. Donc l'état actuel et l'outil de SensePost, on avait fourni des patchs, donc c'est intégré directement. Hier, le travail a été fait à peu près 3 semaines après la publication, et Vigilant, c'est apparemment encore en progrès. Côté éditeur, à moins qu'il s'est oublié mon adresse email, je sais pas. Et pour conclure sur cette présentation, donc il y a deux axes de travail. Côté éditeur d'outils de recherche de vulnérabilité, il y a deux axes. Soit prendre en compte la localisation lors de la génération de signature. Des discussions que j'ai eues avec les développeurs, j'ai eu un seul développeur qui n'était pas dans mon panel, qui est Circle, qui prenait déjà, avant que je prenne contact avec eux, la localisation en compte lors de la génération de signature. Et évidemment, la solution plus simple et plus élégante, c'est de faire tous les tests au niveau applicatif, même si ça impose sur les versions génériques, sur les protocoles non publics. Conclusion pour côté auditeur, fin testeur, et pour ceux qui demandent un système de service de faire ce type de travail pour eux, à mon avis, la seule valeur ajoutée, enfin, la principale valeur ajoutée de quelqu'un qui fait des tests d'intrusion ou des outils, c'est de faire tourner des outils, de savoir comment ils fonctionnent, d'avoir une belle toolbox, mais surtout, sa principale valeur ajoutée, c'est l'élimination des faux positifs et des faux négatifs à partir des rapports. Donc, si jamais vous avez un rapport qui est directement un copier-coller du rapport d'outils, on sait que vous n'aurez pas ce type de service. L'utilisation de plusieurs outils en plus de recouper les résultats, ce n'est pas toujours possible étant donné le prix des licences. Et la dernière solution, celle que je préfère, c'est la parfaite maîtrise des outils employés. Et pour ça, on aura malheureusement souvent besoin du code source. Donc ça privilégiera des outils soit faits maison, soit de type Nessus ou ceux fournis par SenseFox.
Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet ?
Je peux me permettre de glisser un mot. Il y a des personnes qui m'ont parlé au cours des postes d'envisager une session de signature de clé publique et de faire un apéro avec les gens qui sont intéressés. Donc on pourrait éventuellement voir ça à la fin de la rame et organiser ça ce soir à Rennes dans un bar ou quoi que ce soit. Voilà, si les gens sont
intéressés. Est-ce qu'on peut venir si on est juste intéressé par l'apéro?
Absolument.